Bonjour Sybille et bonjour à tous. Bon, ça n'a échappé à personne, un nouveau nom est sur toutes les lèvres depuis quelques semaines. Et à écouter ses détracteurs, on a l'impression que c'est le nouveau Dark Vador, cette espèce d'entité maléfique contre laquelle tout l'univers devrait s'unifier pour arriver à le contrer. Car oui, en 2026, Dark Vador s'appelle désormais Caroline Yadan. Et là, vous allez me dire, oh punaise, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2 semaines qu'elle nous a pas fait de chronique, ça y est, elle a changé de bord et pris sa carte chez LFI. Non, bien évidemment, parce qu'il me reste quand même un peu de neurones. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un tel battage médiatique autour de la proposition de loi Yadan qu'on a l'impression que Madame Yadan serait tout droit sortie de l'université de la liberté d'expression chinoise ou russe pour nous sortir une loi liberticide avec un objectif de censure. Et aujourd'hui, 500 000 citoyens français qui ont répété mot pour mot le discours que leur a servi Rima Hassan et autres gentils militants radicaux ont signé une pétition pour s'opposer à la proposition de loi. Mais rassurez-vous, ils vous diront qu'ils ont fait ça pour protéger les juifs, car la loi Yadan, selon eux, serait contre les juifs et assimilerait les juifs à Israël et ça serait dangereux pour eux. Oui, vous avez bien entendu, des non-juifs estiment qu'une loi écrite par une juive pour protéger les juifs ne serait pas bonne pour les juifs. C'est à se marcher sur la tête de mauvaise foi ou de paternalisme. Comme si nous autres juifs n'étions pas capables de savoir par nous-mêmes ce qui est bon ou mauvais pour nous. Heureusement que Mathilde et Théodore, tout droit sortis de Sciences Po, fraîchement vêtus de leur dernier kéfier et toujours prêts à dénoncer l'impérialisme avec leur iPhone 17, sont là pour nous dire à nous autres juifs ce qu'on doit faire. Alors du coup, soyons sérieux 2 minutes. Concrètement, elle dit quoi cette proposition de loi Yadan? On va d'abord revenir sur ce que la loi ne dit pas. Pour s'opposer à cette loi, ses opposants ont 2 arguments. Le premier serait selon lequel la proposition de loi interdirait les critiques d'Israël. Or, une simple recherche dans la proposition vous informe qu'Israël n'est même pas mentionné dans les articles de la proposition de loi. Par ailleurs, dans l'exposé des motifs, c'est-à-dire l'explication de la loi, Caroline Yadan a écrit noir sur blanc « Chacun est libre de ses opinions politiques à l'égard du gouvernement israélien ». Voilà, on ne peut pas faire plus clair. Donc ce premier argument est de la pure désinformation. Le second argument serait selon lequel la loi Yadan interdirait de critiquer le sionisme. Et là encore, le mot sionisme n'est pas non plus évoqué dans la proposition de loi, et la proposition de loi ne crée pas non plus de délit d'antisionisme. Une nouvelle désinformation donc. Maintenant que ça s'est dit, elle dit quoi alors la loi Yadan? La loi Yadan a 3 articles principaux. Pour le premier article, elle veut modifier l'article 421-2-5 du Code pénal qui punit la provocation ou l'apologie d'actes de terrorisme en proposant de pénaliser tout acte ou propos qui implicitement provoquerait des actes de terrorisme. En gros, même lorsqu'elle est implicite, la provocation restera condamnable. Toujours pour ce premier article, la loi Yadan propose de punir aussi ceux qui font l'apologie des auteurs d'actes terroristes. Avant, avec le code pénal, on ne punissait que ceux qui disaient « Waouh, tel acte terroriste, c'est super !» Et bien maintenant, la loi Yadan propose que l'on punisse aussi ceux qui disent « Waouh, tel terroriste, c'est vraiment un mec incroyable !» Je pense que vous avez compris hein, pourquoi la loi suscite une telle opposition. Et oui, on ne pourra plus glorifier les actes du Hamas, ni même dire que le 7 octobre était un acte de résistance légitime. De toute façon, si vous suivez ma chronique hein, depuis un an, je vous ai expliqué plusieurs fois pourquoi cette affirmation était toujours fausse. Alors, les opposants à la loi vous diront que c'est une atteinte à la liberté d'expression. C'est faux. On pourra toujours parler du 7 octobre, de la Palestine, contextualiser même le 7 octobre, dénoncer les actes du gouvernement israélien, ce que vous voulez. On peut toujours tout critiquer et débattre, encore heureux. On n'aura juste plus le droit de légitimer les terroristes de quelque manière que ce soit. Pour son 2e article, la loi Yadan veut instaurer un nouveau délit. Le fait d'appeler à la destruction d'un État reconnu par la République française. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'on peut débattre de l'histoire d'Israël, de la colonisation, de la Nakba, de tout ce que vous voulez. Mais on ne pourra plus appeler à la destruction d'Israël. C'est aussi simple que cela. Et là encore, ça va à l'encontre de toutes les idéologies des militants radicaux qui depuis 12 ans nous martèlent qu'il faut libérer la Palestine du fleuve au Jourdain ou qui veulent l'éradication du seul État juif. Tu m'étonnes qu'ils ne sont pas contents. Par ailleurs, la formule écrite dans l'article est générale. Elle n'est pas limitée à Israël. Cette interdiction d'appeler à la destruction d'un État couvre aussi la Palestine, puisqu'elle a été reconnue par la France. Enfin, dans son 4e article, la loi Yadan porte sur la contestation de la Shoah. Madame Yadan veut lutter contre la nazification d'Israël et tous ceux qui comparent Israël au Troisième Reich ou font des Israéliens ou des Juifs des nazis. À la base, le droit français punit déjà le négationnisme. L'article 24 bis de la loi de 1881 sur la liberté de la presse punit ceux qui contestent l'existence d'un crime contre l'humanité tel que la Shoah. Et la proposition de loi Yadan veut ajouter que contester un crime contre l'humanité, ça passe aussi par le fait de le banaliser, de le minorer, de dire par exemple « Oh, c'était pas si grave la Shoah » ou de dire « Regardez, ils font pire à Gaza aujourd'hui ». Alors, certains s'y opposent au motif que c'est un risque sur la liberté académique, ce qui est un argument mensonger, car le seul objectif de ces opposants est de pouvoir continuer à faire un lien entre la situation à Gaza et la Shoah, entre Israël et le nazisme. Alors que l'idée de l'article 4 n'est pas d'interdire n'importe quel débat politique ou historique, elle est de mieux viser les formes indirectes et déguisées du négationnisme. En conclusion, on peut reprocher certaines choses à cette proposition de loi, notamment sur des aspects juridiques techniques. Mais on ne peut pas sérieusement la résumer à « elle interdit toute critique d'Israël ». Son noyau, c'est la lutte contre l'apologie du terrorisme, l'appel à la destruction d'un État reconnu et l'extension de la répression de la contestation de la Shoah. Rien de plus que ce qui, normalement, ne devrait pas poser de débat. Enfin, la proposition de loi fait 2 pages. Et dans tout le contexte de l'hystérie collective autour de cette loi, je vous invite vraiment à prendre le temps de la lire et de vous faire votre propre avis, au lieu de signer des pétitions qui, en bas de page, terminent par dire que le droit international légitime le droit à la résistance, pour parler du 7 octobre. Ne laissez pas la haine prendre le pas sur notre intelligence collective et notre humanité. Et face à toute la folie du dehors, permettez-moi un mot personnel, tenez bon et ne lâchez rien.